Deux lectures bibliques dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 22 à 37, et dans le livre de Sophonie, quelques versets du chapitre 2 et 3. Je commence par le texte de Matthieu. Alors, on présenta à Jésus un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Tout le peuple, toute la foule en fut étonnée, et l'on disait : N'est-ce point là le fils de David ? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous ? Ou bien, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et ravir ses biens s'il n'a pas auparavant lié cet homme fort ? Après cela, il pourra piller sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Où vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous, étant méchants, dire de bonnes choses ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor, mais le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et dans Sophonie, recherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez en pratique sa loi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les survivants d'Israël ne commettront plus d'iniquité. Ils ne proféreront point de mensonges. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. Mais ils paîtront et ils se reposeront sans que personne vienne les troubler. Oui, le trésor est sans prix et le vase est d'argile. Père, nous voulons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences, leurs témoignages. Et même si parfois tu nous parais lointain, silencieux, nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans l'Écriture, tu nous invites à redécouvrir ce trésor sans prix que tu as mis pour chacun de nous. Fais-nous cette grâce.
Chers amis, frères et sœurs, le texte proposé pour aujourd'hui, le récit de l'Évangile de Matthieu, nous est un encouragement pour pouvoir démontrer que Jésus se présente de manière irréfutable comme le serviteur de Dieu. Il pose aussi la question de savoir si Jésus a partie liée avec le mal et comment. Enfin, le texte nous rappelle la manière dont nous sommes jugés. Voyons tout d'abord le contexte. Ce n'est pas la première fois que nous voyons Jésus aux prises avec la foule d'un côté et avec le groupe bien connu des religieux pharisiens de l'autre. Et comme souvent, lorsque le Seigneur exerce son ministère de prédication, et malgré la discrétion qu'il impose sur sa propre personne et son rôle supposé de Messie, nous avons d'un côté les pharisiens très opposés à ce prédicateur, à ce guérisseur, et de l'autre, ceux qui le suivent, ceux qui lui amènent des personnes décrites comme ayant des démons, afin qu'il les guérisse. Quelques versets qui précèdent ce que nous avons lu disent « Tous ceux qui le suivaient furent guéris par lui. » Une fois encore, voilà qu'on lui amène, selon l'usage, un possédé, un démoniaque. Alors, rassurons-nous sur le terme, cette façon de parler désigne l'homme, l'humain, atteint dans son intégrité physique ou psychique. Cette personne d'aujourd'hui présentée n'est pas épossédée par on ne sait quoi, et sourde et muette. C'est le fait qu'elle ait ce double handicap qui la place dans la catégorie des possédés ou démoniaques. Ceux qui l'amènent à Jésus, qu'espèrent-ils de lui, sinon qu'il exercera la guérison tant attendue? Et d'ailleurs, cela se passe comme espéré, et le muet, désormais, voit et parle. Alors, bien entendu, ce miracle bouleverse les foules. On serait bouleversé à moins. Et alors la foule bouleversée s'interroge aussitôt sur la puissance de guérison qui vient de se réaliser sous ses yeux et sa relation avec la venue du Messie, de l'envoyé de Dieu promis. Puisque, selon les prophéties, le Messie ouvrirait les yeux des aveugles. Ce nouveau signe de guérison leur sert, on peut dire, d'une forme d'attestation interrogative. Ne serait-il pas le fils de David, puisque parmi le peuple, c'est sous ce nom-là qu'était désignée l'attente messianique? Alors ça fait évidemment, nous l'avons compris tout de suite, cela fait réagir
les pharisiens. Cette manifestation exceptionnelle, les pharisiens l'ont constatée eux aussi, mais elle leur apparaît comme une menace. Le thaumaturge, le guérisseur, ne présente pas aux yeux des pharisiens les caractéristiques du Messie attendu. Alors ils réagissent très négativement par une phrase assassine. Parce que, bien entendu, les pharisiens sont des humains et ils savent bien qu'il y a des mots qui tuent. Ils tentent le tout pour mépriser la démonstration de l'amour. Ils ne sauront pas discerner un signe de bonté et de justice, mais ils vont barrer la voie de la messianité en disant de Jésus, celui-là, évitant de le nommer, est Belzéboul, Belzéboul, même combat. Alors, quelques précisions sur cette appellation étonnante de Belzéboul. En tout cas, elle est employée dans une forme de dénigrement. Ce nom de Belzéboul est probablement dérivé de Baal-Zébul, signifiant seigneur de la maison, ou encore, dit-on, souverain exalté. Mais on peut chercher aussi dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 1, verset 2, il est écrit « Le dieu d'Ekron est appelé Baal-Zébub, que l'on peut traduire par « le seigneur des mouches ». Donc, utilisation d'un sobriquet pour marquer la dérision. Et dans ce texte des Rois, on lisait, alors qu'on va consulter ce Baal-Zébub, « N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour aller consulter Belzéboul ?» Qu'est-il, celui-là, un nouveau Dieu dont on aurait besoin ? Les pharisiens veulent ainsi reprendre la foule en main, car ils se sentent, je l'ai dit, menacés. Ils connaissent bien les prophéties, eux aussi, notamment dans Ésaïe, au chapitre 35, avec lesquelles on s'attendait que le Messie rende la vue aux aveugles. Mes chers amis, vous le savez bien vous aussi, il est toujours possible de trouver une explication perverse aux meilleures actions. Mais nous sommes dans la lecture de l'Évangile et il se trouve que le prédicateur qui guérit connaît aussi les pensées. Alors sa prédication rebondit, car il veut les rejoindre, les pharisiens, dans leur endurcissement. Jésus va leur répondre et propose une réfutation concluante à leurs arguments. Et il dit, mais si je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils ? Nous comprenons que les fils des pharisiens, et entendons par le mot fils, aussi bien les disciples des pharisiens, ceux qui les suivent, ceux qui sont proches d'eux. Ils pratiquaient eux aussi l'exorcisme, la guérison. Peut-être avec un peu moins de succès que Jésus, mais sans doute au nom du Dieu vivant. Donc même les fils disciples des pharisiens seront leurs propres juges dans leur volonté de nier l'action de Dieu dans ce Jésus. Jésus, par ses propos, par ses paraboles, par sa volonté de leur expliquer où ils en sont de leur défaillance de compréhension, Jésus les renvoie à leur réalité d'appartenance. Il les appelle à bien considérer leur propre ancrage religieux. Car toute action par l'Esprit de Dieu ou par le doigt de Dieu, comme le dit Luc, traduisent que de telles manifestations sont toujours intervenues dans l'histoire et principalement dans l'Écriture. Toujours il y a, accompagnant les vicissitudes de la vie, cette volonté de Dieu pour sauver, pour être le rédempteur. On peut se souvenir d'ailleurs facilement comment il lutte avec son peuple pour le libérer de l'esclavage en Égypte. C'est donc dans cette ligne que cette œuvre de guérison par celui que nous appelons Christ est donnée comme un signe de la préparation à l'œuvre suprême de la rédemption, l'œuvre suprême de la nouvelle alliance. En effet, si moi, Jésus, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, eh bien cela va avoir une conséquence extraordinaire. Considérez que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Voilà ce que leur dit Jésus. Et, pardon, maudite grippe, le texte utilise le verbe « ephtazen ». Cela veut dire que le royaume de Dieu, avec lui, est présent en germe. Il arrive, mais il arrive bien en germe, mais pas encore dans sa plénitude, pas encore pour qu'on puisse le saisir de manière totalement évidente et automatique. Et Jésus, dans sa personne, reste un signe, mais un signe discret, qui n'est discernable que par la foi. Jésus retourne donc l'accusation et se démontre lui-même dans son discours, dans son action, comme serviteur du Dieu vivant, mais ce royaume dont il dit être porteur n'est représenté qu'en germe. Et donc, pour Jésus, le combat est bien d'agir avec les moyens du moment contre le mal par le bien. Il est bien aux prises avec Satan ou le diable. Appelons-le Belzébul si ça nous fait plaisir. Mais il est aux prises avec le mal pour en devenir maître. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, frères et sœurs, et je vous appelle ainsi puisque nous lisons la Bible ensemble, nous sommes beaucoup mieux au courant que les pharisiens, que la foule qui vivait le moment dont nous venons de lire le récit. Parce que nous avons la clé théologique des événements. Parce que la question qui devait se poser le jour du récit est « Mais quand le royaume de Dieu, quand ce royaume de Dieu dont tu parles se révélera vraiment avec toute sa puissance ?» Nous avons appris, et notre temps liturgique nous prépare toujours à repasser ces événements dans nos cœurs, nous savons que le royaume de Dieu révélé avec puissance, s'est produit. Pour nous, l'approche en totalité du royaume de Dieu passe et par la croix que nous n'avons pas allumée aujourd'hui et par la résurrection. C'est en effet la croix et la résurrection qui révéleront la toute-puissance de ce règne donné, installé, pourrait-on dire. Alors savoir si Jésus a partie liée avec le mal, c'est se souvenir que sa tâche, son ministère, son œuvre consiste à lier progressivement Satan, le mal, à entraver son activité. Jésus est allé jusqu'à pénétrer l'empire qui s'étend jusque dans la mort, et jusque-là, où il est allé, il a pénétré l'inconnu le plus profond, et ceci pour que tout prisonnier soit libéré. Relisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14, ce qu'il est écrit. « Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair. Lui aussi, pareillement, partagea la même condition, afin de réduire à l'impuissance
par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux, en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés de son peuple. Car, puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Le crucifié ressuscité a répandu sur beaucoup le souffle vivant de l'Esprit de Dieu. Nous savons que ce souffle s'est répandu largement lors de la Pentecôte. C'est de ce souffle-là que l'Église est née, et c'est de ce souffle-là que l'Église vit. Alors reste encore une question, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il comporte une caractéristique absolument essentielle. C'est le fait d'attribuer à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Un tel péché était impardonnable en raison des circonstances qui découlaient pour les pharisiens de leur rejet du Christ. Ce péché était grave. Et Jésus, d'ailleurs, va les stigmatiser souvent dans l'Évangile parce qu'il va évoquer leur hypocrisie, voulant servir Dieu et niant sa parole. Il les placera sans cesse devant leurs propres contradictions. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'est ainsi que nous devons entendre ce reproche comme un appel chaque fois que nous croyons avoir compris la parole autrement que par sa volonté divine. Si l'Église est née du souffle, si l'Église vit de ce souffle, elle est toujours heureuse et digne quand elle ne l'oublie pas. Le souffle de l'Esprit est un vent de liberté. Il se manifeste par le bouillonnement et l'explosion de joie. Vous me direz, c'est pour les mouvements charismatiques. Le souffle de l'Esprit est un vent de liberté. Il est marqué par la gestuelle du rite. Vous me direz, ça concerne plus l'Église catholique. Le souffle de l'Esprit est un vent de liberté. Dans notre Église réformée, il y a toujours l'invocation attente vive de la venue de l'Esprit de Dieu parmi nous. Et je vous rappelle un de nos cantiques qui en fait la pressante demande, « Baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. » Ainsi, l'enjeu de la vie de la foi est de laisser le souffle agir. Cela nécessite beaucoup plus d'humilité que l'on croit au premier abord. Et il y a toujours aussi des risques de débordement, j'en conviens. Matthieu nous a rappelé l'appel pressant du Christ. Et il ne nous dit pas seulement de reconnaître en lui le Fils de l'homme, en qui le royaume est venu, s'est approché, mais nous rappelle d'accepter que notre nature, nos paroles, nos engagements soient passés au filtre de la grâce qui nous est renouvelée de jour en jour par l'Esprit. C'est la conduite par l'Esprit qui veille sur la portée de nos paroles. Et si c'est sur nos paroles, frères et sœurs, que nous devrons et que nous devons rendre compte, nous ne sommes pas menacés, c'est vrai, par le péché irrémissible. En revanche,
nous sommes invités fortement par cette parole de l'Évangile à être des partenaires du Christ. Au verset 30, nous lisons cet étonnant verset, « Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Alors, ça nous concerne. Être rassembleur avec lui, c'est se souvenir que lui ne brise pas le roseau froissé, qu'il n'éteint pas la mèche qui fume encore, car son objectif est de conduire le droit à la victoire. Sous le vent de l'esprit qui passe, il est possible alors de faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est peut-être accepter d'être guéri. Oui, seulement ça. Accepter d'être guéri par sa parole. C'est peut-être aussi le courage de voir et de parler, en affrontant les forces négatives, leur résister et ne jamais les laisser nous submerger. Le courage qui nous est donné nous vient bien sûr d'ailleurs. Il nous vient de Dieu qui, au-dessus des doctrines, des images, des rites qui servent seulement à l'exprimer, le courage nous vient d'ailleurs, de la parole de Dieu qui nous dépasse et qui pourtant peut venir nous habiter. « J'ai cru, dit le psalmiste, c'est pourquoi j'ai parlé. » Dieu est juge de vos paroles, par la parole.